Chapitre 3. Monsieur Bergeret, lors de sa venue à Paris, s'était logé avec sa sœur Zoé et sa fille Pauline dans une maison qui allait être démolie et où il commençait à se plaire depuis qu'il savait qu'il n'y resterait pas. Ce qu'il ignorait, c'est que de toute façon, il en serait sorti au même terme. Mademoiselle Bergeret l'avait résolu dans son cœur. Elle n'avait pris ce logement que pour se donner le temps d'en trouver un plus commode et s'était opposée à ce qu'on y fît des frais d'aménagement. C'était une maison de la rue de Seine qui avait bien 100 ans, qui n'avait jamais été jolie et qui était devenue laide en vieillissant. La porte cochère s'ouvrait humblement sur une cour humide entre la boutique d'un cordonnier et celle d'un emballeur. Monsieur Bergeret y logeait au second étage et il avait pour voisin de palier un réparateur de tableaux dont la porte laissait voir, en s'entr'ouvrant, de petites toiles sans cadre autour d'un poêle de faïence, paysages, portraits anciens et une dormeuse à la chair ambrée couchée dans un bosquet sombre sous un ciel vert. L'escalier, assez clair et tendu aux angles de toiles d'araignée, avait des degrés de bois garnis de carreaux au tournant. On y trouvait, le matin, des feuilles de salade tombées du filet des ménagères. Rien de cela n'avait un charme pour M. Bergeret. Pourtant, il s'attristait à la pensée de mourir encore à ces choses, après être mort à tant d'autres qui n'étaient point précieuses, mais dont la succession avait formé la trame de sa vie. Et chaque jour, son travail accompli, il s'en allait chercher un logis. Il pensait demeurer de préférence sur cette rive gauche de la Seine où son père avait vécu et où il lui semblait qu'on respirait la vie paisible et les bonnes études. Ce qui rendait ses recherches difficiles, c'était l'état des voies défoncées, creusées de tranchées profondes et couvertes de monticules, c'était les quais impraticables et à jamais défigurés. On sait en effet qu'en cette année 1899, la face de Paris fut toute bouleversée. Soit que les conditions nouvelles de la vie eussent rendu nécessaire l'exécution d'un grand nombre de travaux, soit que l'approche d'une grande foire universelle eût excité de toutes parts des activités démesurées et une soudaine ardeur d'entreprendre. Monsieur Bergeret s'affligeait de voir que la ville était culbutée sans qu'il en comprît suffisamment la nécessité. Mais comme il était sage, il essayait de se consoler et de se rassurer par la méditation, et quand il passait sur son beau quai malaquais, si cruellement ravagé par les ingénieurs impitoyables, il plaignait les arbres arrachés et les bouquinistes chassés, et il songeait, non sans quelque force d'âme, « j'ai perdu mes amis, et voilà que tout ce qui me plaisait dans cette ville, sa paix, sa grâce et sa beauté, ses antiques élégances, son noble paysage historique, est emporté violemment. Toutefois, il convient que la raison entreprenne sur le sentiment. Il ne faut pas s'attarder aux vains regrets du passé, ni se plaindre des changements qui nous importunent, puisque le changement est la condition même de la vie. Peut-être ces bouleversements sont-ils nécessaires, et peut-être faut-il que cette ville perde de sa beauté traditionnelle pour que l'existence du plus grand nombre de ses habitants y devienne moins pénible et moins dure. Et M. Bergeret, en compagnie des mitrons oisifs et des sergots indolents, regardait les terrassiers creuser le sol de la rive illustre, et il se disait encore « Je vois ici l'image de la cité future, où les plus hauts édifices ne sont marqués encore que par des creux profonds, ce qui fait croire aux hommes légers que les ouvriers qui travaillent à l'édification de cette cité, que nous ne verrons pas, creusent des abîmes, quand en réalité peut-être ils élèvent la maison prospère, la demeure de joie et de paix. » Ainsi, M. Bergeret, qui était un homme de bonne volonté, considérait favorablement les travaux de la cité idéale. Il s'accommodait moins bien des travaux de la cité réelle, se voyant exposé à chaque pas à tomber par distraction dans un trou. Cependant, il cherchait un logis, mais avec fantaisie. Les vieilles maisons lui plaisaient, parce que leurs pierres avaient pour lui un langage. La rue Gillecœur l'attirait particulièrement, et quand il voyait l'écriteau d'un appartement à louer, à côté d'un mascaron en clé de voûte, sur une porte d'où l'on découvrait le départ d'une rampe en fer forgé, il gravissait les montées, accompagné d'une concierge sordide, dans une odeur infecte, amassée par des siècles de rats et que réchauffaient, d'étage en étage, les émanations des cuisines indigentes. Les ateliers de reliure et de cartonnage y mettaient d'aventure une horrible senteur de colle pourrie, et M. Bergeret s'en allait, pris de tristesse et de découragement. Et rentré chez lui, il exposait à table pendant le dîner à sa sœur Zoé et à sa fille Pauline le résultat malheureux de ses recherches. Mademoiselle Zoé l'écoutait sans trouble. Elle était bien résolue à chercher et à trouver elle-même. Elle tenait son frère pour un homme supérieur, mais incapable d'une idée raisonnable dans la pratique de la vie. « J'ai visité un logement sur le quai Conti. Je ne sais ce que vous en penserez toutes deux. On y a vu sur une cour avec un puits, du lierre et une statue de Flore, moussue et mutilée, qui n'a plus de tête et qui continue à tresser une guirlande de roses. J'ai visité aussi un petit appartement rue de la Chaise. Il donne sur un jardin où il y a un grand tilleul, dont une branche, quand les feuilles auront poussé, entrera dans mon cabinet. Pauline aura une grande chambre qu'il ne tiendra qu'à elle de rendre charmante avec quelques mètres de crétonne à fleurs. « Et ma chambre ?» demanda mademoiselle Zoé. « Tu ne t'occupes jamais de ma chambre. D'ailleurs, elle n'acheva pas, tenant peu compte du rapport que lui faisait son frère. « Peut-être serons-nous obligés de nous loger dans une maison neuve, » dit M. Bergeret, qui était sage et accoutumé à soumettre ses désirs à la raison. « Je le crains, papa, » dit Pauline, « mais sois tranquille, nous te trouverons un petit arbre qui montera à ta fenêtre, je te promets. » Elle suivait ses recherches avec bonne humeur, sans s'y intéresser beaucoup pour elle-même, comme une jeune fille que le changement n'effraie point, qui sent confusément que sa destinée n'est pas fixée encore et qui vit dans une sorte d'attente. « Les maisons neuves, reprit M. Bergeret, sont mieux aménagées que les vieilles, mais je ne les aime pas, peut-être parce que je m'y sens mieux, dans un luxe qu'on peut mesurer, la vulgarité d'une vie étroite. Non pas que je souffre, même pour vous, de la médiocrité de mon état, c'est le banal et le commun qui me déplaît. Vous allez me trouver absurde. Oh non, papa !» Dans la maison neuve, ce qui m'est odieux, c'est l'exactitude des dispositions correspondantes, cette structure trop apparente des logements qui se voient du dehors. Il y a longtemps que les citadins vivent les uns sur les autres, et puisque ta tante ne veut pas entendre parler d'une maisonnette dans la banlieue, je veux bien m'accommoder d'un troisième ou d'un quatrième étage, et c'est pourquoi je ne renonce qu'à regret aux vieilles maisons. L'irrégularité de celle-là rend plus supportable l'empilement. En passant dans une rue nouvelle, je me surprends à considérer que cette superposition de ménages est, dans les bâtisses récentes, d'une régularité qui la rend ridicule. Ces petites salles à manger, posées l'une sur l'autre avec le même petit vitrage et dont les suspensions de cuivre s'allument à la même heure, ces cuisines très petites avec le garde-manger sur la cour et des bonnes très sales, et les salons avec leurs pianos chacun l'un sur l'autre, la maison neuve enfin me découvre par la précision de sa structure les fonctions quotidiennes des êtres qu'elle renferme, aussi clairement que si les planchers étaient de verre. Et ces gens qui dînent l'un sous l'autre, jouent du piano l'un sous l'autre, se couchent l'un sous l'autre avec symétrie, composent, quand on y pense, un spectacle d'un comique humiliant. « Les locataires n'y songent guère, » dit mademoiselle Zoé, qui était bien décidée à s'établir dans une maison neuve. « C'est vrai, » dit Pauline pensive, « c'est vrai que c'est comique. » « Je trouve bien, ça et là, des appartements qui me plaisent, » reprit M. Bergeret, « mais le loyer en est d'un prix trop élevé. Cette expérience me fait douter de la vérité d'un principe établi par un homme admirable, Fourier, qui assurait que la diversité des goûts est telle que les taudis seraient recherchés autant que les palais si nous étions en harmonie. Il est vrai que nous ne sommes pas en harmonie. » Car alors nous aurions tous une queue prenante pour nous suspendre aux arbres. Fourier l'a expressément annoncé. Un homme d'une bonté égale, le doux prince Kropotkin, nous a assuré plus récemment que nous aurions un jour, pour rien, les hôtels des grandes avenues que leurs propriétaires abandonneront quand ils ne trouveront plus de serviteurs pour les entretenir. Ils se feront alors une joie, dit ce bienveillant prince, de les donner aux bonnes femmes du peuple, qui ne craindront pas d'avoir une cuisine en sous-sol. En attendant, la question du logement est ardue et difficile. Zoé, fais-moi le plaisir d'aller voir cet appartement du quai Conti dont je t'ai parlé. Il est assez délabré, ayant servi 30 ans de dépôt à un fabricant de produits chimiques. Le propriétaire n'y veut pas faire de réparation, pensant le louer comme magasin. Les fenêtres sont à tabatière, mais on voit de ces fenêtres un mur de lierre, un puits moussu et une statue de Flore sans tête et qui sourit encore. C'est ce qu'on ne trouve pas facilement à Paris.